pour nous permettre d'avoir le pardon du péché. Donc, tous les hommes sont sous l'empire de péché. On avait vu ensuite la magnifique justification par la foi, un acte d'amour de Dieu, qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament à travers l'exemple de David et d'Abraham. Et donc, ça nous remplit le pécheur de joie que de se savoir libéré du péché. Et l'Esprit de Dieu vient envahir son cœur et répandre l'amour. Et donc, il passe en Christ. Dans Adam, il passe en Christ, quoique il ait toujours affaire à sa nature d'Adam jusqu'à la fin de son séjour sur cette terre. Et donc, ensuite, nous avions vu que, oui, la grâce était vraiment quelque chose qui était surabondant. Et on avait vu également, donc, quitter l'empire du péché, le but c'était pas de rester pécheur, comme avant, mais de profiter de cette mort que nous avions. Quand on est en Christ, on est mort, sur la croix avec Jésus. Le fait qu'on soit mort avec lui sur la croix nous libère des obligations que nous aurions pu avoir avec le péché, avec Satan, avec tous nos ennemis. Nous pouvons, par la foi, déclarer notre décès aux choses de ce monde, déclarer notre citoyenneté en Christ. Nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu, comme l'a rappelé Morel dans son introduction. Et puis, il ne s'agit pas de rien faire, mais il s'agit d'offrir ses mains au Seigneur. Il s'agit d'un temps complet que nous allons pouvoir passer à servir le Seigneur, non pas sous un règlement intérieur constitué de lois, mais administré par l'Esprit Saint lui-même. C'est pas pour ça que ce sera facile tous les jours. C'est sûr que l'on va connaître des chutes, mais on pourra se relever et avancer vers la gloire conduit par Jésus. Donc, ce qui est formidable avec le chrétien, c'est que Christ, par son esprit, est en nous. Nous avons ce qui fait qu'un chrétien est chrétien, c'est qu'il a reçu le Saint-Esprit en lui. Et comme les Israélites ont suivi la colonne de nuée dans le désert, de la même manière, on est conduit par le Saint-Esprit dans toute notre marche chrétienne. Il s'agit de marcher sous la conduite du Saint-Esprit et pas de marcher sous l'ancienne nature d'Adam, sous la chair. Et un jour, ce sera la gloire. Comme Jésus-Christ, les morts ressusciteront et les vivants seront transformés pour le rencontrer, pour aller à sa rencontre. Et donc, nous en sommes là, dans notre épître aux Romains. Donc, nous allons lire, on va relire le chapitre 8. Je vais vous relire le chapitre 8 à partir du verset 18 à 31, parce que la suite, souvent dans les Bibles, est liée, en fait. Pas dans toutes les Bibles, il y a une marque de séparation dans la mienne, dans ma Bible, nouvelle édition de Genève. Mais si vous prenez la Bible de Sumer ou d'autres, le passage de Romains 8, 28 à 30 qui nous intéresse est rattaché à ce qui précède, et on va donc lire ce qui précède ensemble. Romains chapitre 8, je vais lire donc 18 jusqu'à 31. J'estime, et c'est Paul qui écrit, qui parle, aux Romains et à nous aussi aujourd'hui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'expérience qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et le verset 28 maintenant. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On va s'arrêter là, on va déguster ce passage. On est sur la pointe, le sommet de l'épître aux Romains, là. Je vais lire ce 27 à 30, à 30 dans la version Bible du Semeur. Dieu qui scrute les cœurs sait ce quoi dans l'esprit, car c'est un accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, quand on est dans des bonnes circonstances favorables, on pense facilement à que c'est bien. Le Seigneur est là, il me conduit, il m'ouvre le chemin. Des fois, on a une opportunité pour le travail, on voit que Dieu a fait concourir des circonstances qui nous a amené à trouver un travail. Et on est content, on se réjouit de cela. Des fois, les circonstances nous amènent à rencontrer un conjoint et on est heureux. Ah Seigneur, tu m'as fait découvrir la femme vraiment que tu m'as destinée, tu m'as fait découvrir ce mari auprès lequel je soupirais depuis tout si longtemps. Je te loue, je te remercie de cela. Et c'est formidable quand le vent est dans le dos, quand il nous pousse, quand on va dans la même direction et que les circonstances sont favorables. Mais des fois, les vents sont contraires. Et là, bien sûr, tout change. Et quand les complications arrivent, quand la souffrance arrive, les difficultés arrivent, Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus ce qui se passe dans ma vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors on va explorer ce passage ensemble. Alors nous avons un texte qui est dans un contexte. Et jusqu'à présent, l'apôtre n'avait pas parlé d'élection, ni de prédestination, ni de ceux qui avaient été anticipés. On est parti du pécheur qui trouve la grâce, le salut, et qui trouve, on pourrait dire, l'Église, et qui marche avec les frères et sœurs. Et puis là, il nous introduit quelque chose de nouveau dans son discours. Et on a vu le contexte dans lequel il a mené cet enseignement de la prédestination, de cette doctrine qui des fois nous fait hérisser les poils parce qu'on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? On est dans un contexte de l'évocation des souffrances, de douleurs d'accouchement. Et on est un contexte d'exposé de la gloire à venir. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu parle de cette doctrine. Hein. Ça va nous encourager dans les temps difficiles. Ça va nous aider à ne pas attraper la grosse tête également quand on a des révélations aussi merveilleuses de ce qu'il a fait. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, c'est des choses qui... Non, on n'a pas... Tout vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Cela nous rappelle cela. Si on regarde les autres passages de la Bible où il est question de la prédestination, il est largement question dans l'Épître aux Éphésiens. Là aussi, on a un contexte de révélation du plan merveilleux de Dieu pour l'Église. Et dans le contexte des Thessaloniciens, il en parle beaucoup. Et là, on est dans un contexte de persécution, des gens qui sont dans les difficultés. Paul leur parle de cela. Et dans l'Épître de Pierre également, les persécutions du pouvoir en place. Et donc, on retrouve ces paroles qui disent, qui nous encouragent pour dire « Dieu est au contrôle ». Dieu est au contrôle, Dieu pilote toutes choses. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se décourager et ne pas attraper la grosse tête non plus. Les apôtres n'ont jamais fait appel à cette doctrine lorsqu'il s'agissait de dénoncer le péché, lorsqu'il y a les choses qui ne vont pas, vous ne verrez pas. Les apôtres parlaient de cela au contraire, face au péché. Ils brandissent facilement comme une perspective que d'être retranché du peuple de Dieu. Est-ce que c'est contradictoire? Non. Non. L'enseignement de la prédestination est fondamental. L'apôtre Paul parachute ici cette idée, mais il va utiliser 4 chapitres après pour la développer parfaitement. Donc c'est quelque chose qui est important de savoir. Et c'est quelque chose qui est aussi... qu'il faut aborder avec prudence, avec sagesse. Et donc il va, dans les chapitres qui suivent, prendre l'exemple d'Israël, de l'élection du peuple d'Israël, pour nous expliquer, pour qu'on comprenne mieux cela. Alors, si on ne comprend pas tout aujourd'hui complètement, il ne faudra pas s'inquiéter. Il y a la suite de l'Épître pour nous. Alors, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent ensemble, coopèrent, sont en synergie, on dirait aujourd'hui. Donc, dans ce toutes choses, il y a les choses encourageantes, il y a les bénédictions qu'on reçoit, mais il y a aussi les choses qui relèveraient du mal, hein. La difficulté pour nous est de savoir, de comprendre, mais comment quelque chose qui est mal peut-il finalement contribuer à notre bien. L'apôtre Jacques est clair et l'enseignement de la Bible est clair. Dieu n'est pas à l'origine du mal. C'est pas lui qui est à l'origine du mal. Il n'est pas tenté par le mal et il ne tente personne à ce sujet. Le problème, c'est le drame dans le jardin d'Éden, quand le mal est entré dans le monde. Mais Dieu est plus grand que le mal. Et le mal ne saurait s'opposer au plan que Dieu a prévu, et bien plus. L'apôtre enseigne que par son esprit, Dieu va faire rentrer le mal même, on pourrait dire malgré lui, il le fait rentrer dans son plan pour bénir ses enfants. L'apôtre dit, Nous savons cela. Et c'est quelque chose qui était enseigné dans l'Ancien Testament. On a l'exemple de Joseph dans les Écritures qui est typique. Hein, vous savez l'histoire de Joseph, comment il avait été jalousé par ses frères qui voulaient le mettre à mort. Il est devenu esclave en Égypte, loin de son pays, loin de sa famille, loin de son père et de sa mère. Il était tout jeune pourtant. Et là, il a été atterri à cause de sa fidélité au fond d'une prison. Mais dans ces circonstances, Dieu a finalement l'a fait atterrir à la tête même de cette puissant empire d'Égypte, et il a pu ainsi sauver toute sa famille tous ses frères et sœurs de la famine. Et il exprime de façon très très claire en Genèse 50 à la fin du livre de la Genèse. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine, nous rende tout le mal que nous lui avons fait. Ils dirent à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car qui suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous, vos enfants. Et il les consola et parla à leur cœur. Donc nous savons par les Écritures qu'il en est ainsi. Nous connaissons également le cas de Job, un livre tout entier consacré au problème de la souffrance. Le prophète Habacuc également. Par les Écritures, nous savons qu'il en est ainsi. Par l'histoire également, nous le savons, si nous considérons par exemple les emprisonnements de Paul. C'est là où il a été en prison, où il a écrit pas mal de ses épîtres. Jean aussi, quand il était sur l'île de Patmos, où il a eu la révélation de Jésus-Christ ressuscité. Et on a maintenant, le Saint-Esprit a utilisé ces circonstances pour que nous ayons la parole de Dieu, tout l'enseignement des apôtres aujourd'hui. Les persécutions des chrétiens aussi ont contribué à répandre dans tout l'Empire romain un évangile pur à ce moment-là. Et si nous regardons dans nos propres vies en arrière, on peut constater comment Dieu a utilisé les circonstances pour nous amener à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on regarde en arrière les années passées, lorsqu'on a de l'âge, on voit que on a eu des difficultés, mais voilà, il en est ressorti au final quelque chose de positif. Et on rend gloire à Dieu de cela. Toutes choses travaillent ensemble, coopèrent, sont en synergie, les bonnes comme les moins bonnes. Pour le bien selon Dieu. Selon Dieu, le bien selon Dieu. Dieu qui connaît ce qu'est notre bien ultime. Et au début de notre passage, on a lu parole de Paul, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dieu veut notre bien ultime. Pour ceux qui aiment Dieu et que Dieu a choisi, ceux qui aiment Dieu sont d'abord ceux que Dieu a choisi. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, écrit l'apôtre Jean. Dans les Thessaloniciens, l'apôtre Paul indique que nous avons reçu l'amour de la vérité. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, dit Jésus, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Pardon. Donc, ceux qui aiment Dieu sont ceux que Dieu a choisis. Donc Dieu fait contribuer toutes aux choses pour le bien ultime de ceux qui aiment Dieu. Et on peut voir également pour le bien individuel, mais aussi pour le bien collectif. Je pense qu'on peut facilement oublier cela. Dieu va utiliser les circonstances de ma vie pour ma bénédiction personnelle, peut-être, certainement, mais aussi pour la bénédiction de mes frères et de mes sœurs, de ceux qui m'entourent, et peut-être de ceux que je ne connais pas, et peut-être de ceux que je ne connaîtrai jamais. On a évoqué dans la méditation cette grande famille de Dieu, partout des frères et des sœurs, sur toute la terre, qu'on ne connaît pas, et d'autres qu'on ne connaîtra pas, mais peut-être notre vie, à un moment donné, aura eu une influence sur une personne à travers les circonstances par lesquelles on sera passé. Quel est donc cet objectif de bénédiction ultime que Dieu poursuit? Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères et sœurs. Donc, Dieu avait le projet d'adopter des enfants. Depuis toute l'éternité, Dieu avait en vue de faire grandir sa famille, en quelque sorte. Mais comment est-ce possible que des êtres créés capables de pécher, et qui vont pécher, et qui vont devenir pécheurs, puissent recevoir un jour le statut d'enfant de Dieu? Le grand but, c'est de les rendre semblables, conformes à l'image de Jésus-Christ. Et donc Dieu a fait deux choses, on le sait, hein. Il y a eu un double mouvement. Le Fils de Dieu s'est incarné pour mourir pour le péché, revenir à la vie dans un nouveau corps. Et le pécheur devait se convertir, recevoir la justice de Christ, adhérer à sa nouvelle famille, et pour terminer, lui aussi recevoir un nouveau corps semblable à celui de Jésus. Le Fils est incarné dans un corps, et maintenant un corps glorifié, nous allons un jour, les enfants de Dieu vont recevoir un jour un corps glorifié, semblable à celui du Seigneur Jésus. Afin que le Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, une grande famille. Alors le premier-né, c'est plus que le fils aîné, dans la parole de Dieu. Le premier-né a un rôle de leadership, il a des privilèges et des responsabilités. Et en quelque sorte, tous les enfants d'adoption propulsent Jésus-Christ, premier-né de tous les frères. Et ça aussi rappelle que le chrétien reste un enfant d'adoption. On ne sera jamais des dieux, hein. Mais tout de même, rendu participant à la nature divine. C'est ainsi que présente les choses l'apôtre Pierre dans l'introduction de ses lettres. Et voilà donc la destinée du chrétien, le sens ultime de notre existence sur terre. Alors, pour Dieu, de lui, par lui et pour lui, comme dit les Écritures, hein, ces choses-là. Quel est le plan que Dieu met en place pour remplir cet objectif? Ce que Dieu a connu d'avance. Donc, il les a prédestinés, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. On a quatre interventions chronologiques qui sont liées, enchaînées les unes aux autres. Ça fait une chaîne qui les rend indissociables les uns des autres. Et le premier de ces mots, c'est prédestiné. Dieu n'est pas de limité par le temps, il a choisi d'avance ceux qui seraient ses enfants d'adoption. Est-ce que ça est surprenant? Est-ce que les enfants, quand ils viennent au monde, est-ce que ce n'est pas suite à un projet d'un homme et d'une femme? Pour l'adoption, c'est encore plus le cas, puisque les parents forment un projet d'adoption, ils font des démarches, ils entreprennent tout un processus parce que ils voulaient avoir adopté un enfant. C'était leur volonté qui était à la base. Et tout, ils mettent tout en place, et l'enfant qui est adopté, lui, il est là, et voilà, ce sera son papa, sa maman, quand il est grand, on attend qu'il dise oui, et généralement il dit oui. Quand on a un bébé, ben voilà, il reçoit, il n'avait pas de parents, et il va recevoir un papa et une maman. Prédestiné. Appelé. C'est le même mot grec, le même sens en français que le grec, je regardais. Mais il y a donc c'est appelé, c'est recevoir un nom, être appelé du nom de, ou être appelé, avoir un appel, quelqu'un qui nous appelle par l'autre nom, ou bien il y a un sens en plus, c'est quand le mot qui était utilisé quand on était invité à une fête, on était convié à une fête, on était appelé à ce moment-là. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, il y a cette parabole où le Seigneur envoie des serviteurs parce qu'il pour appeler des personnes aux fêtes, il y a des invités aux fêtes de noces de son fils. Et voilà, seulement ils ne viennent pas tous. Ils sont appelés, Jésus conclut, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais dans notre texte ici, il est question de l'appel de Dieu au cœur. Dans la théologie réformée, ils appellent ça un appel irrésistible. Bon, on voit qu'en pratique, c'est quand même un appel que Dieu doit répéter souvent et pendant longtemps, bien souvent, avant que enfin on dise oui et on réponde oui. Parfois, ça prend des années. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un appel de Dieu. C'est un appel qui est personnel à une personne. Et c'est un appel qui reçoit le oui. Et c'est ça, les appelés. Ce sont ceux qui ont dit oui, qui ont reçu cet appel personnel de Dieu. Jésus-Christ, sur le sermon sur la montagne, il dit « Entrez par la porte étroite. Large est la porte. » Spacieux, le chemin qui conduit à la perdition. Il y a beaucoup qui passent par là. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui le trouvent. Et on donne cette belle image d'une porte. On peut imaginer une autoroute où des voitures filent et puis il y a une porte de sortie. Il y a une bretelle de sortie avec marqué un grand panneau. Quiconque passe, entre ici sera sauvé. Et donc, quiconque passe par cette porte sera sauvé, c'est ce qu'on voit sur le panneau. Et les personnes qui rentrent là, elles avancent, et puis quand elles se retournent, elles voient marqué de l'autre côté de la porte, élu. Depuis la fondation du monde. Et donc, il y a ces deux côtés. C'est ainsi que parfois on exprime cette élection de Dieu qui est avec un appel qui est pour tout le monde, mais seulement il y en a que peu qui vont répondre à l'appel. Appelé, justifié. L'apôtre Paul a largement parlé de la justification par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Donc chapitre 3, versets 23 à 26, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont tous gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. Glorifié, On a relu le passage qui concerne la glorification, dont il parlait juste avant, au début, dans l'épître, dans le chapitre 8. On peut être surpris que les verbes soient tous au passé. Bon, il y a une remarque, c'est que c'est un temps qui est utilisé dans le texte sous la plume de l'apôtre qui s'appelle l'aoriste, qui n'existe pas en français, et ce temps-là, ça désigne des actions ponctuelles, principalement, et des choses qui ont eu lieu à une époque donnée. L'essentiel a eu lieu quand on est chrétien dans le passé, mais pour Dieu, il est en dehors du temps. Hein. Dieu est en dehors du temps. Quand on prend l'image d'un livre, quand il est écrit, il y a une histoire qui commence à un début, qui se termine à une fin. Et bien sûr, l'écrivain a écrit toute l'histoire, mais quand on lit l'histoire, on la découvre au fur et à mesure telle qu'elle a été écrite. Et l'écrivain, lui, voyage dans son histoire comme il veut. Il n'est pas limité par le temps. Alors, prédestiné, appelé, justifié, glorifié, tous ces termes parlent de l'assurance du salut. Est-ce que l'on peut rentrer dans ce plan et puis en sortir à un moment donné? Tout est sous le contrôle de Dieu. Donc, en quelque sorte, ça signifierait que Dieu n'est pas capable d'amener un pécheur jusqu'à la gloire. Il est à la fois le Tout-Puissant et le Miséricordieux, et il mènera, en faisant tout travailler ensemble, il mènera à cet objectif que Jésus-Christ est une multitude de frères. Et tout sera mis à contribution et rien ne pourra empêcher ce plan prévu à l'avance depuis tout à fait le commencement du conseil de Dieu. Quelles applications pourrons-nous dire à tout cela? Il ne faut jamais perdre de vue que nous sommes dans un contexte où il a été exposé la souffrance de la vie, dans la vie chrétienne, qui est une composante normale de la vie chrétienne. La vie chrétienne, le chrétien passe par des moments de souffrance. Et la révélation également de la gloire à venir. On est dans ce contexte-là. Quelles applications? Alors, si Dieu a finalement tout prévu, s'il utilise toutes choses pour l'exécution de son plan, alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais quelle application peut-on trouver? J'en ai quand même trouvé deux. On peut se laisser faire. On peut laisser Dieu nous rendre conformes à l'image de son Fils. Le laisser être d'accord avec les moyens qu'il va utiliser pour cela. Au lieu de se plaindre de nos circonstances, au lieu, au pire encore, de les fuir, ces circonstances-là, de les fuir, accepter qu'il en soit ainsi. Savoir reconnaître la main de Dieu, accepter le chemin étroit et rocailleux. Job a dit cette parole célèbre, nous recevons le bien de Dieu et ne recevrons-nous pas aussi le mal? Job 2.10. Accepter que les circonstances difficiles servent aussi le bien de mes frères et de mes sœurs, présents ou à venir. C'est ainsi que l'apôtre voyait les choses pour ce qui le concernait par rapport à son emprisonnement. Quand il écrit aux Éphésiens depuis sa prison, chapitre 3, verset 14, chapitre 3, verset 13, « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. » Et il ajoute, « Elles sont votre gloire. » elles sont votre gloire. C'est à travers cela que Dieu va vous bénir. Et il ne devait pas se décourager. Le psaume 116, verset 15, exprime ceci. C'est un très beau psaume, on le connaît. Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qu'il aime. Quand un enfant de Dieu souffre, quand un enfant de Dieu même va perdre la vie, c'est pas rien. Ça a du prix très élevé aux yeux de Dieu. Et c'est pas pour rien que Dieu permet cela. C'est parce qu'il a un plan derrière. Peut-être pas pour nous qui souffrons, mais pour peut-être amener d'autres à Jésus-Christ. Se laisser faire donc, mais on peut aller au-delà et on peut collaborer avec Dieu pour le salut des élus. Cela, il y a un lien, et dans les chapitres qui suivent, Paul va parler de l'évangélisation. Dieu a envoyé son fils Jésus dans le monde pour sauver l'humanité. Et si nous sommes destinés à être semblables à l'image de son fils, nous sommes aussi envoyés vers l'humanité. Jésus nous dit « Allez ». Lui, il a été. Il a quitté sa gloire, il est venu sur la terre. Il a été envoyé. Et si nous sommes rendus semblables à son image, nous aussi nous sommes envoyés. Il ne peut pas en être autrement. En ce sens, le plan de Dieu ne peut pas se réaliser sans nous. Nous allons dans notre vie, d'une façon ou d'une autre, participer à l'évangélisation. Parce que ce n'est pas une cause, mais c'est une conséquence de l'accomplissement de ce plan. Dieu veut rendre ses enfants conformes à l'image de Jésus, et l'image de Jésus est l'image de celui qui a été envoyé vers le monde. Et c'est logique que l'accomplissement de ce plan envoie des hommes, des femmes dans le monde pour apporter cet évangile. Ça ne peut pas se faire sans nous. Et ça ne peut se faire qu'à travers nous. C'est une des conséquences. Collaborer avec Dieu pour le salut des élus. Voilà l'application de ce plan qui, où Dieu a déjà tout prévu d'avance. Ben, il nous a prévu dedans. Il nous a prévu dedans. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vous propose de chanter le chant « Te ressembler Jésus », le 500. Et puis après, on pourra passer un moment à prier le Seigneur. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême.